c'est dire leur fait à leur ministre, qu'il soit larbin ou président. L'espoir, c'est le respect toujours de tout ce qui palpite et vit. Ça vient de loin des anciens jours de la mine et du pain rassis. L'espoir, c'est l'évidence belle que l'on est là mille et cent mille, sans peur aucune de vous rebelles, et que ça n'est pas inutile. L'espoir, c'est plus fort que la mort, la fleur qui perce le goudron, le soleil qui se lèvera encore sur les fûts rouillés des canons. C'est cette flamme qui vacille, ce feu que je tiens dans ma main, fragile et fort comme ma vie, c'est tout ce qui me fait humain. L'espoir.
Quasiment dans les mêmes parages, et tous les ans je trouve du changement de dessus mon passage. À tous les coups c'est pas le même chien qui gueule à mes choses. Et puis voyons si je me souviens, voyons dans ce coin de Beauce, y avait dans le temps un beau grand chemin. Cheminot, chemine, à cette heure n'est pas plus grand que ma main. Par où donc cheminerai demain? En Beauce, vous les connaissez pas, pour que rien ne se perde, mangerai on ne sait quoi ces cas-là. Il mangerait de la merde. Le chemin c'était à leur jugé la bonne terre perdue. À chaque labour, ils l'ont mangé d'un sillon de charrue. Y avait dans le temps un beau grand chemin. Cheminot, cheminot, chemine, à cette heure n'est pas plus grand que ma main. Par où donc que cheminerait demain? Sont gros aussi leurs arpents goulus d'un peu de lèpre toute neuve, mais pour le chemin en est devenu mince comme une couleur. Et moi qu'avec lui sous les cieux pour poser guibole, chemin à tout le monde, nom de Dieu, c'est mon bien qu'on me vole. Y avait dans le temps un beau grand chemin. Cheminot, cheminot, chemine, à cette heure n'est pas plus grand que ma main. Par où donc cheminerai demain? On se met du blé sur le terrain qui retira ma route. Mais si je leur demande un bout de pain, ils m'envoient me faire foutre. Et c'est peut-être bien pour ça que je vois, à mesure que le blé monte, les épis baissent le nez devant moi, comme s'ils avaient honte. Y avait dans le temps un beau grand chemin. Cheminot, cheminot, chemine, à cette heure n'est pas plus grand que ma main. Par où donc cheminerai demain? Chemin gris et blanc, sur le dos qui je passe, je veux plus qu'on me serre comme ça les flancs, car moi je veux de l'espace. Où ce que mes allumettes elles sont, dans le fond de ma panetière, et je ferai bien reculer vos moissons, oh les mange-terre. Y avait dans le temps un beau grand chemin. Cheminot, cheminot, chemine, à cette heure n'est pas plus grande ma main, je pourrais bien l'élargir demain.
Radio Libertaire, 89,4 MHz, vous êtes bien dans l'émission Les Mangeterres et nous allons donc commencer ce tour d'horizon de l'actualité une actualité vue sous un angle social. En tout cas, on essaye de relayer notamment un certain nombre d'interventions et communiqués d'organisations syndicales et d'associations qui luttent pour la défense à la fois de l'environnement, mais dans le respect, évidemment, des contraintes sociales. Voilà, pour commencer, sans plus tarder, nous ouvrons une page copieuse portant sur l'agriculture avec quelques communiqués de la Confédération paysanne qui m'ont semblé intéressant de relayer sur cette antenne. Donc tout d'abord, dans un communiqué du 12 mars, la Confédération paysanne revient sur l'expérimentation sur l'adaptation de la biosécurité aux élevages plein air qui démarre enfin donc ce mois-ci, au mois de mars, dans 144 fermes. Après des années de crise, alors de grippe, mais influenza aviaire, voilà, on appelle ça comme ça, et l'imposition de mesures de prévention inadaptées au plein air, alors même que la claustration des volailles ne portait pas ses fruits, la Confédération paysanne, donc le syndicat paysan, a réussi à convaincre le ministère de l'Agriculture de prendre en compte les difficultés rencontrées par ces élevages en plein air. Ainsi, fin 2022, la Direction générale de l'Agriculture et de l'Alimentation, DGAL, a sollicité la Confédération paysanne pour le lancement d'un projet partenarial visant à, ouvrez les guillemets, expérimenter des adaptations de la biosécurité aux élevages plein air de volailles et de porcs. Pilotée nationalement par la FADEAR, donc une fédération, cette expérimentation démarre enfin sur le terrain sur 144 fermes sélectionnées, donc 52 en élevage de porcs et 92 en volailles, réparties sur quasiment l'ensemble du territoire national, dont la Corse et la Réunion. Localement, ce sont 15 structures membres des réseaux de la FADEAR, de la FNAB, donc la Fédération de l'Agriculture Biologique, et de GDS, GDS France, qui assurent la coordination de ce projet. Une trentaine de référents terrain ont été formés pour assurer le travail aux côtés des éleveurs. Après la conduite d'une analyse des risques sanitaires à l'échelle de chaque ferme, l'objectif du projet est d'évaluer scientifiquement l'efficacité des mesures alternatives de prévention mises en place par les paysans. Les résultats de ces expérimentations sont attendus pour mai 2025 et seront assortis de propositions d'évolution réglementaire pour une politique sanitaire mieux adaptée au plein air. La Confédération paysanne se réjouit que ce travail de terrain commence enfin après une longue phase de cadrage du projet. Nous défendons depuis plusieurs années une prise en compte des risques sanitaires sur la base d'une vraie analyse de risque. Cela permet de sortir des obligations de moyens indifférenciés, de prendre en compte la diversité des contraintes, des niveaux de risque et des moyens de maîtrise mis en œuvre dans les fermes. La Confédération paysanne reste mobilisée pour que ce partenariat entre scientifiques, instituts techniques, administration et paysans puisse aboutir à des évolutions positives pour les éleveurs plein air. Une lutte contre la claustration, c'est-à-dire l'enfermement des animaux d'élevage pour raison de propagation de l'influenza aviaire, donc grippe aviaire. Il existe des alternatives et elles doivent être évaluées. Autre communiqué de la Confédération paysanne, donc sur le CETA, là c'est intéressant, hein, l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Puisque le 21 mars, nous avons appris que le Sénat a dit non. Et donc, ce dont se félicite la Confédération paysanne. La loi autorisant la ratification de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada a été annulée. En démantelant les outils de protection économique, notamment les droits de douane, les accords de libre-échange, plus globalement, entraîne de fait une baisse des prix agricoles tant pour les paysans du pays exportateur que du pays importateur. Les logiques purement comptables d'analyse de ces accords basées sur la seule balance commerciale de la France et sa, ouvrez les guillemets, compétitivité, ne sont pas pertinentes tant ils accentuent la course au volume, aux quantités donc, sans retour concret aux producteurs. Pire, ces accords de libre-échange empêchent d'imaginer le retour à des outils de régulation des marchés, freinent aussi toute initiative de relocalisation de nos systèmes agricoles et alimentaires, et enfin fragilisent les démarches de transition agroécologique sur les fermes et les territoires. Donc la Confédération paysanne donne trois exemples concrets. Premièrement, le Canada exporte beaucoup de colza vers l'Union européenne et la France. Or, ce colza est OGM et sert notamment aux usines de production d'agrocarburants de multinationales comme Avril. Les producteurs français de colza apprécieront cette concurrence déloyale au niveau des prix comme des conditions de production. Deuxième exemple, en France, une lentille sur cinq provient du Canada, qui est le premier producteur au monde. Au Canada, il est possible d'appliquer du glyphosate juste avant la récolte. Cette pratique est proscrite en France. Cette concurrence déloyale empêche l'essor des filières de légumineuses en France, qui représentent moins de 2% des surfaces de grande culture. Le CETA, donc cet accord qui a été annulé, tue nos sols en hypothéquant le retour des légumineuses dans nos rotations et l'intérêt du développement de la recherche pour les variétés de légumineuses. Troisième exemple, concernant l'élevage, le contingent de 68 000 tonnes équivalent carcasse est une véritable épée de Damoclès sur l'élevage bovin-viande français majoritairement herbagé qui préserve les prairies et leur rôle de puits de carbone et fait vivre de nombreux territoires ruraux. On retrouve là, hein, sur cet exemple, eh bien, l'élevage de plein air et l'enjeu, évidemment, qui aurait été contrecarré par le CETA. De plus, les études d'impact ont prouvé que depuis son application, le CETA a eu un effet négatif sur le climat. Un autre commerce international est possible qui doit être basé sur la solidarité, l'équité, la souveraineté alimentaire des peuples et le respect du droit à l'alimentation de tous. L'agriculture doit sortir de l'Organisation mondiale du commerce, nous dit la Confédération paysanne. Et évidemment, nous sommes d'accord sur cette antenne. Alors, à contrario, là, il s'agissait d'un accord de libre-échange avec le Canada qui a capoté. À contrario, communiqué tout à fait récent du 28 mars de la Confédération paysanne, toujours sur la viande ovine, pour défendre les éleveurs d'ovins face aux importations néo-zélandaises. La Confédération paysanne rappelle que le débat autour des accords de libre-échange est crucial pour l'avenir de nos fermes et de nos territoires. L'adoption d'un nouvel accord Union européenne-Nouvelle-Zélande fin 2023 va créer un appel d'air supplémentaire à l'importation de volumes significatifs de viande ovine, de produits laitiers et de viande bovine. Ce nouvel accord est un véritable danger pour l'élevage ovin français. En effet, il met très directement en concurrence les éleveurs d'ovin français et européens avec les éleveurs néo-zélandais qui bénéficient de conditions de production très différentes. À partir du 1er mai prochain, de manière criminelle, nous dit la Confédération paysanne, un contingent avec droit de douane nul de 38 000 tonnes équivalent carcasse de viande ovine s'ajoutera progressivement au contingent déjà existant de 125 800 tonnes. La filière viande ovine est frappée de plein fouet par le libre-échange. C'est un secteur abandonné depuis longtemps par les politiques commerciales dont le revenu moyen est parmi les plus faibles du secteur agricole. Les perspectives d'installation dans la filière ovine s'en trouvent gravement assombries. Il est en effet impossible de garantir des prix rémunérateurs durables face à une telle concurrence déloyale d'importation à bas prix. De fait, la production française de viande ovine couvre seulement 46% de la consommation nationale. Quelle absurdité d'importer de l'autre bout de la planète des agneaux qui pourraient être produits localement. Reconquérir notre souveraineté alimentaire est pourtant un enjeu majeur en viande ovine. Alors que le principal pic d'importation d'agneaux néo-zélandais est observé autour de Pâques, on y est, le réseau de la Confédération paysanne se mobilise dans plusieurs régions cette semaine pour défendre la production de viande ovine locale et revendique premièrement la sortie immédiate de l'accord Union européenne-Nouvelle-Zélande et du CETA et l'arrêt des négociations d'accords de libre-échange, notamment avec le Mercosur, l'Australie, le Chili, le Kenya. Deuxièmement, l'interdiction de l'achat de nos produits agricoles en dessous de nos prix de revient, c'est-à-dire le coût de production qui inclut la rémunération du travail et la protection sociale, hein, très, très fondamentale. Troisièmement, des prix minimums d'entrée sur le territoire national fixés à la hauteur de nos prix de revient pour neutraliser la concurrence déloyale. Pour la Confédération paysanne, cette orientation néolibérale et cette course à la compétitivité sont néfastes pour l'ensemble des paysans français et du monde, que leur production soit exportatrice ou importatrice nette. Rompre avec le libre-échange nécessite de sortir de la rhétorique de gagnants et de perdants qui entérine l'idée que des territoires et secteurs agricoles entiers servent de monnaie d'échange dans des accords de libre-échange. Pour assurer un avenir désirable pour les éleveurs d'ovins, nous avons besoin d'une réelle protection économique et sociale de notre revenu contre la concurrence déloyale. Voilà, bah, une illustration, hein, évidemment, de bah, ce libéralisme criminel, puisque on le voit, bien, ces accords internationaux favorisent le moins-disant social, le moins-disant environnemental, et ne régulent absolument pas les coûts de production, sans compter aussi la pollution induite de faire voyager la marchandise de très très loin, hein, ce qui est dit d'ailleurs dans le communiqué. Et à savoir que bien, l'impact de cette pollution n'est pas imputé dans les calculs nationaux. Hein, on le dit souvent sur cette antenne, ça a été un des non-dits du protocole de Kyoto il y a longtemps, c'est-à-dire que eh bien, finalement on l'impute à personne. Donc résultat, bah, les pays occidentaux sont de plus en plus vertueux puisqu'ils exportent. Ils importent beaucoup et de plus en plus, avec un phénomène de désindustrialisation, pardon. Et bien le résultat, on le connaît, hein, c'est que ben, les chiffres au niveau national sont bons, mais dans ce type aussi d'accords internationaux, le voyage infini de la marchandise, considéré sous le seul angle du coût de production, eh bien, est une aberration, une de plus dans ce système capitaliste. Autre article concernant bah, d'actualité, hein, concernant cette fois-ci le chocolat de Pâques. Alors l'article est un peu long, c'est un article issu de Novétique, mais il m'a semblé intéressant aussi pour mesurer cet acte finalement assez banal de consommation du chocolat, ce qu'il y a derrière. Donc un article publié le 30 mars qui s'interroge pour savoir si on pourra encore consommer du cacao dans 20 ans, puisque entre hausse des prix, crise écologique et baisse de la productivité, la filière doit aujourd'hui se transformer si elle veut survivre. Donc, bien sûr, comme chaque année à Pâques, le chocolat est partout. Mais l'événement phare du cacao a eu lieu donc le 30 mars, dans un contexte inédit pour la filière. A lieu aujourd'hui, pardon, pas le 30 mars, c'est en ce moment, je veux dire. Voilà, depuis le début de l'année, donc, les prix du cacao flambent et atteignent un record historique à 10 000 dollars la tonne, après une année de perte de production inédite, liée en partie à la crise climatique. Fragilisée après des années de monoculture et de déforestation, la filière commence à prendre conscience de l'urgence de changer de modèle. En Afrique de l'Ouest, notamment en Côte d'Ivoire et au Ghana, là où il est produit près de 70% du cacao mondial, le cacao a dévoré la forêt. En 60 ans, 80% des forêts primaires en Côte d'Ivoire ont ainsi disparu, notamment pour produire du cacao. Dans ces zones surexploitées, les biodiversités s'érodent, les puits de carbone s'effondrent. Et les conditions sociales et économiques de la production permettent à peine aux petits exploitants, qui représentent plus de 95% de la production mondiale, de s'assurer un revenu décent. Aujourd'hui, cette cacao culture est à bout de souffle, d'abord car il ne reste pratiquement plus de forêts à détruire, mais aussi parce que la monoculture très productive à court terme est aujourd'hui fragilisée par la crise écologique et climatique et durablement affaiblie par la déforestation généralisée. On se rend tous compte que le modèle de monoculture n'est pas du tout résilient. Ce modèle a des impacts environnementaux considérables, mais aussi sociaux, avec des producteurs qui ne peuvent pas en vivre correctement, explique Stéphane Sabourin, qui est sourceur de cacao pour le chocolatier français Valrhona. C'est ainsi qu'en 2023, près de 30% de la production ouest-africaine a été perdue à cause de l'instabilité climatique et des pluies sans précédent qui ont favorisé la pourriture brune et les maladies. Une crise qui risque bien de se reproduire, selon Alain Carsanti. La filière en est d'ailleurs bien consciente. L'International Cocoa Organization prévoit qu'en 2024, pour la troisième année consécutive, la production devrait être inférieure à la demande. Les acteurs du secteur commencent donc tout juste à se mobiliser. Il y a des avancées, non pas parce que les acteurs sont devenus vertueux, mais parce qu'il y a eu des pressions et des contraintes sur les gouvernements et sur les entreprises, de nouvelles réglementations pour lutter contre la déforestation et produire un cacao plus durable, notamment, explique Amourlaï Touré, consultant spécialiste du cacao en Afrique de l'Ouest pour l'association Mighty Earth. En 2017, 35 grandes entreprises du secteur et les gouvernements des principaux pays producteurs ont ainsi lancé l'initiative Cacao Forêt, CFI, qui vise à redresser la filière, lutter contre le travail forcé et la déforestation, mais aussi mettre en place de nouvelles méthodes de culture. Amourlaï Touré ajoute Aujourd'hui, presque toutes les entreprises du cacao ont des politiques de transformation et de durabilité, des chartes pour un cacao zéro déforestation plus durable, notamment grâce à la plantation d'arbres. Un concept semble mettre tout le monde d'accord, à savoir l'agroforesterie. Tout le monde n'a que le mot agroforesterie à la bouche, de Cargill à Mondelez, en passant par les gouvernements, explique Alain Carsenti. Le concept, cultiver le cacaoyer dans des écosystèmes forestiers diversifiés avec d'autres espèces d'arbres. L'agroforesterie protège de certaines variabilités climatiques, le couvert arboré protège des coups de chaud et maintient le taux d'humidité, explique Christian Silas, qui est agronome spécialiste du cacao, au centre de recherche agronomique, le CIRAD. On a également moins d'attaques de certains insectes, notamment l'émiride, qui attaque le cacao quand il est cultivé en plein soleil. Une pratique qui consiste en fait à revenir aux conditions naturelles de la pousse, car c'est ainsi, à l'ombre d'autres arbres, que se développe naturellement le cacaoyer. La solution paraît évidente pour développer un cacao plus résilient, plus durable, mais aussi plus rémunérateur pour les producteurs. Pour Christian Eberhardt, il s'agit d'une vraie révolution en devenir dans la filière cacao. Les acteurs de la filière se rendent compte que pour maîtriser leur cacao culture à moyen terme, la seule solution est de passer par l'agroforesterie, stabiliser et pérenniser les cultures. Plusieurs études ces dernières années ont montré l'intérêt de ces systèmes agroforestiers. Une méta-analyse publiée en 2020 montrait que s'ils produisent parfois jusqu'à 25% de cacao en moins par hectare, ils sont plus résilients, permettent de diversifier les productions alimentaires, stockent plus de carbone dans les sols, etc. Encore faut-il savoir de quoi on parle. L'agroforesterie ne dispose pas de définition stricte dans le secteur du cacao. Dans les faits, il y a autant de définitions que d'acteurs, explique Alain Carsenti. Dans les programmes des grands groupes, on mise sur la distribution de millions de plants d'arbres aux producteurs. Des cacaoyers sélectionnés pour être plus productifs, mais aussi d'autres arbres, notamment pour du bois d'œuvre. Ferrero, Mars, Nestlé ou encore Barry Callebaut communiquent à coups de millions d'arbres plantés. Mais les études sur le terrain montrent, à l'image d'un rapport conjoint mené par des chercheurs français et ivoiriens en 2023, que ces plantations généralisées ont de mauvais résultats. Ce sont pour beaucoup des projets d'agroforesterie alibi, pas adaptés aux réalités de la cacaoculture, où on ne plante que quelques arbres avec des taux de mortalité très importants, analyse Alain Carsenti. Il y a une dissonance entre ces discours des acteurs industriels et la déforestation qui continue à se développer. Ça ne veut pas dire que tout le monde fait mal, mais il y a encore de gros trous dans la raquette, explique Marion Feige-Müller, qui est chercheuse pour le BASIC, qui est une société coopérative d'analyse des modes de production et de consommation. Pour aller plus loin, il faudrait des programmes de formation sur la taille des arbres, mais aussi les techniques agricoles, un prix rémunérateur qui permette aux producteurs d'investir. Un vrai système agroforestier, c'est très contraignant. Ce n'est pas quelques bananiers ou arbres de bois d'œuvre qu'on va planter pour faire du couvert. C'est un vrai travail qui demande de la main-d'œuvre, une technicité agricole. Ça doit se construire sur le terrain, explique Marion Feige-Müller. La transition vers l'agroforesterie est d'autant plus complexe que les grands groupes se heurtent à un mur, celui de la traçabilité. La quasi-totalité des producteurs de cacao sont de très petits exploitants qui cultivent et récoltent le cacao dans des circuits économiques en grande partie informels. Pour les grands groupes, le plus souvent occidentaux, Barry Callebaut, Cargill, Mars, Nestlé, Ferrero, qui achètent leur cacao en masse, il peut être difficile de savoir précisément d'où provient le cacao de leur chaîne de production. Difficile donc de travailler avec les producteurs pour faire émerger des pratiques d'agroforesterie. Depuis les années 2000, ces groupes disent avoir mis en place des politiques pour améliorer cette traçabilité, identifier leurs fournisseurs et travailler avec eux pour améliorer les conditions de production. L'enjeu est fondamental pour les entreprises, notamment dans le cadre des réglementations européennes qui interdisent l'importation de produits issus de la déforestation. Contactés par Novetic, donc le journal qui publie cet article, ces groupes redirigent vers leur communication officielle. Ferrero explique dans ses rapports de durabilité avoir mis en place un système de surveillance par satellite permettant de visualiser chaque hectare de production afin de s'assurer que son cacao ne contribue pas au défrichement des forêts. Même chose chez Mars, engagé à traiter 100% de son cacao d'ici 2025. Mais les experts sur le terrain sont dubitatifs. François Ruff, qui est économiste spécialiste du cacao au CIRAD, explique ainsi sur LinkedIn « La traçabilité des fèves est un mythe. Par exemple, rien de plus facile que de convertir du cacao libérien en cacao ivoirien. » Amourlaï Touré, spécialiste du cacao pour l'ONG Mighty Earth, ajoute « Pour une vraie traçabilité, il faut de la surveillance sur place, de l'accompagnement des contrôles réguliers et pour ça, il faut des financements. En réalité, il n'y a pas assez d'efforts des grandes entreprises de ce point de vue. » Des petits acteurs comme Valrhona, qui représente environ 0,15% des fèves de cacao mondial, tentent de faire émerger une filière plus durable. L'entreprise travaille ainsi avec plusieurs sourceurs de cacao qui vont dans les pays producteurs rencontrer les cacaoculteurs et contractualiser des partenariats directement avec des coopératives. Le développement de cette agroforesterie demande beaucoup d'investissements à l'entreprise. Il faut accepter de payer plus cher les producteurs, mais on sait qu'un bon chocolat, c'est un chocolat produit correctement qui rémunère mieux les cacaoculteurs, explique Jeanne Chaumont, qui est responsable RSE de l'entreprise. Pourtant, l'agroforesterie est encore loin de concerner toute la chaîne d'approvisionnement du groupe. En Côte d'Ivoire et au Ghana, le modèle dominant reste la monoculture en plein soleil. Ce serait vous mentir que de dire que nos producteurs n'utilisent pas ce modèle, concède Stéphane Sabourin. Mais l'entreprise assure continuer à développer des projets d'agroforesterie, notamment à Haïti, à Bali et en Afrique de l'Ouest. Chez Ethicable, donc Ethicable, on travaille aussi en direct avec des coopératives de producteurs certifiés bio notamment. Christian Eberhardt explique « On travaille sans pesticides, on réfléchit aux tailles des arbres, aux ombrages, au compost, tout ça spécifiquement à chaque terroir. Et on arrive aujourd'hui à avoir une bonne productivité, même si ça demande du temps, de la patience, plus de technicité et plus de travail. » Reste à savoir qui va payer pour ce cacao produit dans le respect des conditions humaines et environnementales. L'enjeu, c'est de faire payer les intermédiaires, les transformateurs, les distributeurs qui aujourd'hui ont des marges et les distribuent trop souvent en dividendes. Ça donnerait de l'air à la filière et permettrait de mieux rémunérer les producteurs, avance Marion Feijmuller. Une étude menée en 2020 par Le Basique avec la FAO, donc l'Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture Mondiale, montre en effet que les marges des grands acteurs du secteur sont importantes, au point qu'entre 2020 et 2023, la famille Ferrero s'est versée près de 2 milliards d'euros de dividendes. C'est en effet aux grands acteurs de mettre les moyens sur la table pour assurer la traçabilité et la transition vers l'agroforesterie, abonde Alain Carsenti. La question du partage de la valeur cristallise aujourd'hui les tensions dans la filière, les pays producteurs réclamant plus de soutien dans l'application des mesures de transition. C'est d'ailleurs cet enjeu qui explique en partie les conflits diplomatiques autour du règlement européen visant à interdire les produits issus de la déforestation, jugés trop lourds pour les petits exploitants et qui pourraient être reportés. Des négociations pourraient avoir lieu et permettre de mettre en œuvre des mesures plus adaptées si elles ne sont pas affaiblies par les intérêts économiques. Voilà l'article donc de Novektik et sa conclusion. Et puis pour terminer cette page roborative, c'est le cas de le dire, sur l'agriculture, eh bien, je voulais citer le canard enchaîné de cette semaine avec, dans la rubrique, le conflit de canards. La malbouffe qui est dans une forme olympique. Là, on revient aussi sur le territoire. On souhaite un bon appétit aux 15 millions de touristes attendus pour les JO de Paris, dit le canard enchaîné. Quand, entre deux épreuves, ils pousseront la porte d'un restaurant salivant à l'idée de déguster une bonne blanquette de veau ou un coq au vin, il y a fort à parier qu'on leur servira de la cuisine d'assemblage. En effet, la gastronomie française a beau être classée depuis 2010 patrimoine culturel immatériel de l'humanité, dans la partie du bien manger, seulement 7000 restaurateurs sur 175 000, donc moins de 5%, et ça, selon les calculs du ministère délégué aux entreprises et à la consommation, font vraiment la cuisine. Les autres se contentent, donc ça veut dire 168 000 sur 175 000, se contentent d'enfourner au micro-ondes ou de remettre en température des plats industriels surgelés ou sous vide. Plus rentable que de payer un cuistot. Pour que nos restaurants remontent sur le podium, Olivia Grégoire, la sous-ministre concernée, avait soufflé l'idée l'année dernière d'un affichage obligatoire afin d'identifier sur les menus tous les plats non faits maison. Une alléchante proposition mise sur la table de l'Assemblée nationale au début de l'année par le groupe Renaissance, mais retirée le 19 mars, après avoir été hachée menu par l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, l'UMIH. Dans l'arrière-cuisine, le chef étoilé Thierry Marx, le président de l'UMIH, aura donc tout fait pour cramer l'initiative. 5 jours avant que le texte soit examiné en commission des affaires économiques, la grande toque s'est fendue d'une bafouille aux députés pour les menacer. citation, nous soulignons ici avec vigueur et forte conviction que l'affichage non fait maison constitue pour nous une ligne rouge à ne pas franchir. Et d'expliquer qu'il a échangé de manière positive avec le rapporteur du texte et que ce dernier, par ailleurs restaurateur, a accepté de servir un amendement aux petits oignons faisant sauter la mention « non fait maison ». Heureusement pour les touristes olympiques gastronomes, le député Richard Ramos va remettre le couvert avec une nouvelle proposition de loi réintroduisant sur les cartes l'indication « non fait maison ». Cela fait près de 20 ans que le lobby de la restauration industrielle s'agite pour continuer de fourguer en loose dé à ses clients du prêt-à-manger. En 2007, sous Sarkozy, le gouvernement avait bien touillé le label facultatif « maître restaurateur ». Las, aujourd'hui, 4% des restos seulement affichent le logo informant le chaland qu'une grande partie de la popote est préparée sur place. L'essentiel, c'est de participer, conclut avec malice cet article du Canard enchaîné de cette semaine, donc du 27 mars 2024. On va s'accorder une pause bien méritée. Vous êtes à l'écoute de Radio Libertaire sur 89,4 MHz dans l'émission Les Mangeux de Terre.
Nature qui est tout en sueur, dans les hectares il y a du bonheur, c'est le printemps. Et il y a des lilas qu'on n'aime plus le temps de se faire tout mauve ou bien tout blanc, c'est le printemps. Et il y a du blé qui se fait du mouron, les oiseaux eux ils disent pas non, c'est le printemps. Et à nos chagrins qu'ont des couleurs, il y a même du printemps chez le malheur. Il y a la mer qui se prend pour Monet, ou pour Gauguin, ou pour Manet, c'est le printemps. Et il y a des nuages qui n'ont plus de quoi, on dirait de la barbe, papa, c'est le printemps. Et il y a le vent du nord qui a pris l'accent, avec Mistral, il passe son temps, c'est le printemps. Et à la pluie qui est passée chez Dior, pour se payer le modèle Soleil d'Or. Il y a la route qui se fait nationale, et des fourmis qui se font la malle, c'est le printemps. Et à de la luzerne au fond des lits, et puis le faucheur qui lui sourit, c'est le printemps. Et à des souris qui se font les dents sur les matous, par conséquent, c'est le printemps. Il y a des voix d'or dans un seul cri, c'est la Sixtine qui sort la nuit. Il y a la nature qui se tape un bol à la santé du rossignol, c'est le printemps. Et à le Beaujolais qui la ramène, et Mimi qui se prend pour Carmen, c'est le printemps. Il y a l'île Saint-Louis qui rentre en scène, et puis Paris qui s'y promène, c'est le printemps. Il y a l'été qui se pointe dans la rue, et des ballots qui n'ont pas vu. C'était le printemps.
C'était Léo Ferré, c'est le printemps sur Radio Libertaire, 89,4 MHz, dans l'émission Les Mangeux de Terre qui reprend son cours, une émission qui balaye l'actualité du mois écoulé. Et nous allons donc ouvrir la page énergie. Cette page sera copieuse, mais nous ferons une pause, nous accorderons un peu plus de respiration que dans cette première demi-heure. Alors, commençons cette page énergie avec Reporter, donc le site Reporter, qui nous dit que malgré l'accord de Paris, 20 feux verts ont été donnés pour de nouveaux gisements pétro-gaziers en 2023. En effet, au moins 20 développements de champs pétroliers et gaziers ont fait l'objet d'une décision finale d'investissement l'année dernière. Ils devraient déboucher donc sur une production de 8 milliards de barils équivalent pétrole, selon l'édition annuelle du Global Oil and Gas Extraction Tracker, publié par l'ONG états-unienne Global Energy Monitor, jeudi 28 mars. En outre, 19 nouveaux gisements contenant environ 7,7 milliards de barils ont été découverts en 2023. D'ici la fin de la décennie, les entreprises fossiles ont l'intention d'extraire 31 milliards de barils répartis sur 64 champs supplémentaires. L'Agence internationale de l'énergie, donc l'AIE, avait pourtant averti en 2021 qu'aucun nouveau gisement de pétrole et de gaz ne devait être exploité afin de contenir le réchauffement global dans la limite de 1,5 degré, conformément à l'objectif de l'accord de Paris. Mais d'après le rapport publié jeudi dernier, donc, les producteurs d'hydrocarbures ont depuis cette date donné leur feu vert au développement de gisements renfermant au moins 16 milliards de barils et en ont découvert au moins 20 milliards. Les producteurs de pétrole et de gaz ont invoqué toutes sortes de raisons pour continuer à découvrir et à exploiter de nouveaux gisements, mais aucune d'entre elles ne tient la route. La science est claire, pas de nouveaux gisements de pétrole et de gaz, sinon la planète sera poussée au-delà de ce qu'elle peut supporter, commente Scott Zimmerman, chef de projet pour le Global Oil and Gas Extraction Tracker. Voilà. Donc ça, c'est pour un aperçu un peu global de cet accord de Paris. Et si on revient dans l'actualité française, on a avec Reporter, toujours du 18 mars, cette annonce par le Premier ministre d'une consultation publique sur la stratégie énergétique. Cette annonce a été faite donc le 15 mars, l'annonce d'une grande consultation prochainement lancée sous l'égide de la Commission nationale du débat public, CNDP. Il s'agira de consulter les citoyens sur la stratégie énergétique et climatique de la France à l'horizon 2030 et 2035. Plus précisément, il devrait être question lors de ces débats de discuter des deux plans phares du gouvernement en la matière. Premièrement, la programmation pluriannuelle de l'énergie, PPE, donc 2024-2035, et deuxièmement, la stratégie nationale bas carbone, SNBC, 2024-2038. Le média Contexte, qui est un média spécialisé dans les politiques publiques, rapporte que l'idée d'un simulateur en ligne serait à l'étude pour permettre aux citoyens de choisir en conscience entre les contraintes qu'imposerait chaque option énergétique sur l'avenir en matière d'électricité, de biomasse, etc. Il s'agirait également de mettre sur la table les questions des coûts et des financements, précise encore une source gouvernementale qui s'est confiée au média Contexte. Les définitions de la PPE et de la SNBC, donc ces deux politiques et stratégies, sont attendues avec impatience par les ONG écologistes. En janvier, elles avaient dénoncé le recul des ambitions du gouvernement sur les énergies renouvelables. Tous les objectifs de déploiement des énergies renouvelables d'ici 2030 avaient en effet été purement et simplement supprimés en janvier du projet de loi pour la souveraineté énergétique au profit d'objectifs renforcés sur le nucléaire. Ces objectifs chiffrés devraient toutefois refaire surface sous une forme ou une autre. En février dernier, le ministre délégué chargé de l'industrie et de l'énergie, Roland Lescure, avait précisé que cette loi sur la souveraineté énergétique était repoussée à la fin de l'année ou plus tard, après la tenue d'un débat public sur le système énergétique français. Donc voilà, actualité à suivre sur cette consultation. Et puis dans les actes concrets du gouvernement, toujours avec Reporter, dans un article du 22 mars, MaPrimeRénov, donc cette prime à la rénovation du bâtiment, qui nous dit que le gouvernement recule sur la rénovation énergétique. Les professionnels du bâtiment le réclamaient, le gouvernement l'a fait. La simplification du dispositif d'aide MaPrimeRénov a été actée par un décret et un arrêté publié au Journal officiel du vendredi 22 mars. Comme l'expliquait Reporter, l'État a décidé d'accorder à nouveau les aides financières pour les monogestes de rénovation énergétique, étape par étape, pourtant réputés moins efficients en termes de confort et d'économie d'énergie que les rénovations globales. C'est donc un retour en arrière par rapport à la réforme entrée en vigueur en début d'année qui visait à recentrer les financements vers les rénovations globales et ambitieuses. Le nouveau décret permet de bénéficier d'une aide pour un seul geste d'isolation sans obligation de changer le mode de chauffage à partir du 15 mai et jusqu'au 31 décembre, quelle que soit l'étiquette énergétique du logement. Donc Voilà, je me permets un aparté. On l'avait dit dans cette émission, hein, c'est évidemment, il y avait eu un rapport de la Cour des comptes disant entre les lignes que financer un monogeste, en particulier un changement de chaudière, sans viser à un changement de classe énergétique, c'était bien de l'argent public mal utilisé. Et c'était en plus l'essentiel, la majorité ultra écrasante de la consommation des crédits au titre de MaPrimeRénov. Donc on le voit, on retourne en arrière avec, encore une fois, une politique du chiffre. Beaucoup de citoyens concernés, mais en ce qui concerne les résultats, par contre, eh bien, très peu d'effet sur la consommation, la baisse de la consommation globale. Il était, je reprends l'article, il était prévu de rendre la prime inaccessible pour les logements classés F ou G à partir de juillet afin d'inciter leurs propriétaires à opter pour la rénovation globale. Du 15 mai au 31 décembre, MaPrimeRénov pourra aussi être accordée aux personnes installant un système de ventilation double flux si elles réalisent en même temps un geste d'isolation éligible à la prime. Quant à l'arrêté, il supprime pour la même période l'obligation de fournir un diagnostic de performance énergétique pour toute demande de prime. Afin d'accélérer les travaux, il autorise par ailleurs la fourniture d'un simple compromis de vente lors du dépôt de la demande d'aide. Le justificatif de propriété ne devient obligatoire que pour obtenir le paiement de cette prime. Les dossiers de demande d'aide prenant en compte ces évolutions pourront être déposés à compter du 15 mai sur le portail de France Rénov, précise le ministère de la Transition écologique dans un communiqué. Pour les rénovations globales, il faudra donc attendre 2025 et le déploiement d'ici là du dispositif mon accompagnateur, Rénov. Selon le ministère, 440 opérateurs ont déjà été agréés et 600 autres devraient l'être dans les prochains mois. On voit globalement hein, le problème effectivement de bien pas suffisamment de professionnels formés et surtout d'ambition au rabais où on, comme je l'ai dit en commentaire hein, on va dépenser de l'argent public finalement pour une efficacité vraiment réduite. Allez, avant de passer à la page suivante qui sera consacrée au nucléaire, on s'accorde une nouvelle pause musicale. Avril, c'est la saison, chante Catherine Sauvage. Et bien ça tombe bien, nous sommes au mois d'avril et nous sommes toujours sur Radio Libertaire, 89,4 MHz.
Avril, c'est la saison des nouvelles amours, des nouvelles rencontres. C'est le temps qui décroise et croise les parcours où les filles se montrent, plus promptes à changer le rameau de l'hiver contre un premier venu. Qu'un matin de soleil à tout repeindre en vert sans avoir prévenu. Une fleur a poussé au lilas de ma cour et le vent la caresse. C'est déjà la saison des nouvelles amours et des vieilles promesses. Les serments de l'automne vont peser plus lourd au cœur de vos maîtresses. Tu vas bientôt savoir s'il peut durer toujours ton penchant de jeunesse. Les filles à leurs amarres comme les bateaux vont rêver de partance. Le nouveau capitaine sera le plus beau et vive les vacances. Tu vas te retrouver au milieu d'un beau jour avec ton âme en peine. C'est mauvais la saison des nouvelles amours, des premières fredaines. Avril pour les fringants habiles au discours, c'est le temps des aubaines. Or les maris contre eux n'ont guère de recours et la ville en est pleine. Vite que le mois passe et le printemps aussi, que l'été vous rassure. Et vous aurez passé sans mal, pauvre mari, la saison la moins sûre. Les feuilles vont tomber au lilas de ma cour, jaunes comme des flammes. Jusqu'à l'autre saison, de nouvelles amours, vous garderez vos femmes.
Comme annoncé, c'était bien Catherine Sauvage qui interprétait « Avril, c'est la saison » sur les ondes de Radio Libertaire 89,4 MHz dans l'émission « Les Mangetaires » qui reprend son cours en ouvrant la page « Transport » après la page « Énergie » avec un article de Neuvétique qui revient sur ce feu vert donné aux méga camions en Europe et qui est un contresens écologique puisque le Parlement européen a voté donc en début du mois une directive autorisant la circulation de méga camions des véhicules de transport pouvant aller jusqu'à 60 tonnes. Et cette décision faisant débat à l'heure où le transport de marchandises doit faire sa décarbonation, notamment grâce au fret ferroviaire. Verra-t-on donc bientôt des camions de 60 tonnes et 25 mètres de long, les gigaliners ou méga-camions sillonner les routes françaises et européennes? Le Parlement européen vient en tout cas d'approuver une directive qui autoriserait ces véhicules déjà présents dans certains pays du nord de l'Europe, la Finlande, la Suède, l'Allemagne, les Pays-Bas, à circuler sur les routes du continent. La directive avait notamment pour objectif d'autoriser les camions électriques plus lourds à circuler, mais elle s'appliquera également aux véhicules thermiques. En France, le poids maximal des camions en circulation est de 44 tonnes et une éventuelle autorisation représenterait un changement important pour le secteur du transport routier de marchandises. En théorie, chaque pays pourra ou non transposer cette directive, mais déjà le débat prend de l'ampleur car les impacts environnementaux, économiques et en matière de sécurité de ces camions sont encore largement controversés. Alors, je profite de cet article pour faire juste un petit commentaire qui sera sans doute pas évoqué dans l'article, à savoir les dégâts occasionnés sur le réseau routier liés au poids des véhicules suressieux, et évidemment ces dégâts étant dans mon souvenir entre une centaine ou une millier de fois supplémentaires aux camions par rapport aux véhicules classiques. Il y a là aussi dans l'augmentation du poids de ces camions, de ces méga camions, des dégradations sur l'infrastructure routière qui ne sont évidemment pas payées à la hauteur des dégâts occasionnés. On sait bien que le rapport notamment des péages entre véhicules légers et poids lourds ou méga poids lourds n'est certainement pas d'un ratio de 1 à 100. Voilà, c'est aussi un autre commentaire pour dire que il y a de l'externalisation des dégâts environnementaux, bien sûr, et que bien, c'est la collectivité finalement qui paye la réfection du réseau routier. Voilà, je poursuis l'article. Alors, l'argument que défendent les partisans des gigaliners et les acteurs du secteur, c'est qu'en faisant circuler des camions plus gros, il serait possible de faire des économies d'échelle et des économies d'énergie. Lors des débats parlementaires, Isabel Garcia Muñoz, rapporteuse socialiste espagnole de la directive, expliquait ainsi qu'avec des camions plus grands, il serait possible de transporter plus de marchandises par camion et donc d'émettre jusqu'à 25% de CO2 en moins par rapport aux camions classiques. En théorie, on peut avoir un gain d'efficacité énergétique par tonne transportée grâce notamment à des effets aérodynamiques. On pourrait alors transporter les mêmes charges avec moins de véhicules en circulation et donc moins d'émissions de gaz à effet de serre, explique ainsi Nicolas Rayard, expert transport et énergie pour le Shift Project. Sauf que cet argument est discutable. Il faudrait être sûr que les camions soient pleins, ce qui n'est pas simple, car les entreprises ne sont pas toujours prêtes à mutualiser leurs marchandises, ajoute-t-il. Surtout, l'autorisation pourrait créer un effet rebond en rendant le transport par camion plus compétitif et en incitant ainsi à faire circuler encore plus de camions sur les routes au détriment d'autres modes de transport moins polluants comme le fret ferroviaire ou maritime. C'est ce qu'indiquait déjà en 2007 l'association Transport et Environnement dans un position paper sur le sujet. Récemment, un rapport d'experts commandité par les acteurs européens du fret ferroviaire estimait que l'autorisation des méga-camions créerait un appel d'air qui engendrerait près de 10 millions de trajets supplémentaires en camion par an, soit l'équivalent de 6,6 millions de tonnes de CO2 émises en plus dans l'atmosphère. Le risque à moyen terme, c'est que cela affaiblisse le fret ferroviaire. Et s'il y a un report modal depuis le train, on aura tout perdu du point de vue climatique, analyse Nicolas Raillard. Le fret ferroviaire est en effet un levier essentiel pour la décarbonation des transports, mais a du mal à se développer face à la concurrence de la route. Depuis les années 60, le fret ferroviaire décline déjà au profit du fret routier. Aujourd'hui, on est à moins de 10% de part de marché pour le ferroviaire, explique l'ingénieur. Comme l'indique l'eurodéputé écologiste Karima Deli dans Le Monde, la mesure pourrait tout simplement tuer le fret ferroviaire. L'Organisation ferroviaire mondiale indiquait en conférence de presse que la directive européenne sur les poids et dimensions des véhicules routiers met en péril le verdissement des transports. La mesure aurait pu avoir un sens si elle était accompagnée de politiques de renforcement du ferroviaire, mais prise seule, elle ne semble pas adaptée du point de vue climatique, conclut Nicolas Raillard. D'autre part, l'autorisation de ces géants roulants pourrait avoir d'autres impacts environnementaux, le bruit par exemple, mais aussi des conséquences en matière de dégradation des infrastructures routières. Le rapport d'experts sur le sujet évalue ainsi à près de 1 milliard d'euros par an le surcoût pour les collectivités européennes pour entretenir les routes fragilisées par des camions plus lourds. Nous y voilà, hein, voilà le petit commentaire que j'avais fait tout à l'heure, sans parler des enjeux en termes de sécurité routière ou des externalités à gérer pour les collectivités et riverains, notamment en matière de congestion des routes. En France, le ministre des Transports, Patrick Vergriete, a indiqué sur les réseaux sociaux que la France s'oppose à la libéralisation de la circulation des méga-trucks et rappelle qu'aujourd'hui, la priorité est le report modal, en particulier vers le ferroviaire. En 2020, le gouvernement avait annoncé sa volonté de créer des autoroutes ferroviaires pour développer le fret ferroviaire et favoriser un report modal de la route vers le train dont les émissions de CO2 sont nettement inférieures. En 2022, le Haut Conseil pour le climat recommanderait d'ailleurs de développer les politiques publiques sur le report modal pour atteindre un doublement du fret ferroviaire d'ici 2030, un chantier qui n'est peut-être pas sur de bons rails à l'heure où l'Europe semble favoriser la route. Voilà pour cet article. Je voulais revenir aussi sur l'interrogation qu'on peut se faire aussi par rapport à ces déplacements, à la nécessité de transporter toujours plus lourd. C'est évidemment la question du voyage de la marchandise, bien sûr. Hein. Il y avait cet exemple, je ne sais pas s'il est vrai, mais en tout cas de deux camions qui se sont percutés, un camion espagnol transportant des tomates en Italie, percutant un camion italien transportant des tomates en Espagne. Alors cet exemple-là, évidemment, illustre toute l'absurdité de ce voyage de la marchandise. Mais en tout cas, c'est aussi une interrogation, bien sûr. Il y a une question évidente de relocalisation et de sortir de cette notion de l'avantage comparatif, cette notion libérale, capitaliste, selon laquelle, là où les aliments sont le moins chers à produire, c'est là qu'il faut les produire et faire voyager la marchandise. Puisque tous les dégâts sur l'environnement ne sont pas comptabilisés, ce qui rendrait, si on donnait leur véritable valeur aux dégâts occasionnés sur l'environnement, qui rendrait les marchandises absolument pas moins chères que celles que l'on produit plus près de chez nous. Voilà, donc tout ça pour... redire que quand on évoque ces sujets, il faut évidemment s'interroger sur l'aspect environnemental et même organisation sociale pour répondre aux problèmes, et cet élément n'était pas dans l'article. Alors effectivement, Reporter revient sur confirme que le ministre donc a dit que notre pays n'était pas prêt à accepter en tout cas la circulation de ces méga camions. Et je vais aller donc sur un autre sujet puisqu'on est dans la page transport. Qui m'a semblé intéressant aussi, un article de Reporter encore du 22 mars. et qui nous dit, nous explique justement pourquoi la baisse des émissions de CO2 qu'a connue la France, je l'évoquais tout à l'heure, évidemment, si on concerne les, on considère les émissions depuis le sol du territoire national, il y a une baisse des émissions de CO2. En revanche, on consomme des produits qui viennent de très loin. On a délocalisé la production, hein, c'est tout simplement ça. Et évidemment, on fait croire que la pollution émise dans les pays qui produisent bien les biens que l'on consomme, eh bien cette pollution est du fait des pays producteurs, alors qu'il est bien évident que sur une analyse en empreinte, et c'est aux consommateurs de se voir imputer cette pollution. Ce qui pousse à consommer non seulement moins, mais mieux et surtout à proximité. Tout ça se rejoint. Alors, reporter du 22 mars nous dit quoi ? Nous rappelle que le gouvernement s'est réjoui d'une baisse des émissions de CO2, mais revient sur celle qui touche le secteur du transport très polluant, qui est loin de suffire. Donc, effectivement, les émissions de gaz à effet de serre ont baissé, considérées sur un plan national, de 4,8% en 2023 relativement à 2022. C'est ce qu'indiquent les estimations encore temporaires du Centre interprofessionnel technique d'études de la pollution atmosphérique, qui est le CITEPA. Une bonne nouvelle très importante, s'est réjoui le président de la République. Parmi les nouveautés de l'année 2023, la baisse qui touche le secteur des transports le plus polluant, avec 32% des émissions nationales. Après une décennie de stagnation, les rejets routiers ont enfin diminué de 3%, soit le niveau le plus bas depuis 2009, remarque le CITEPA. Si messieurs Macron et Béchu, ministres de la transition écologique, semblent côtoyer le 7e ciel, les associations écolo, elles, sont bien moins enthousiastes. Non, ce n'est pas une bonne nouvelle, insiste Pierre Leflève, chargé de mission mobilité durable au sein du réseau Action Climat. Le secteur des transports reste à la traîne. On est au-dessus de la trajectoire prévue par la stratégie nationale bas carbone. En clair, sur les 4 dernières années, nous devons notre salut climatique qu'à l'année 2020, marquée par une baisse record des émissions des transports liées évidemment à la pandémie de Covid-19. Surtout, d'après l'expert, la diminution observée en 2023 correspond à un résultat très conjoncturel. Pour le CITEPA, cette performance du transport routier est en effet en grande partie due à des hausses du prix à la pompe. La baisse de consommation de carburant semble peser principalement sur les ménages qui ont dû contraindre leurs déplacements en raison de la flambée des prix à la rentrée 2023, décrypte Pierre Leflève. Ce n'est pas de la sobriété choisie, c'est de la précarité. Autre facteur, selon le CITEPA, la baisse des ventes des véhicules diesel au profit des voitures électriques, qui représentaient 26% des ventes en France en comptant les hybrides rechargeables l'an dernier, selon l'Association des constructeurs européens d'automobiles. En France, l'électrification du parc automobile se poursuit, confirme l'expert du réseau Action Climat, mais elle est contrebalancée par le succès des SUV thermiques. En effet, en 2023, près d'un véhicule vendu sur deux était un SUV, qui est donc le type de voiture le plus vendu dans notre pays, résume un site spécialisé. Or, ces véhicules émettraient 20% de plus que les voitures conventionnelles, principalement en raison de leur poids. Tiens, ça fait écho à ce qu'on disait sur les méga camions. Hein. Précisons que les véhicules électriques émettent beaucoup de carbone hors de nos frontières, hors de l'extraction du lithium et de la fabrication des batteries. Or, ces émissions importées ne sont pas prises en compte dans le rapport du CITEPA, rappelle Anne Lasman-Trapier de France Nature Environnement. Dernier point, et non des moindres, sur ces bolides survoltés, le marché est dominé par des modèles très lourds et surtout très chers, souligne Pierre Leflève. Conséquence, les plus aisés se sont équipés, mais on peine à rendre les voitures électriques accessibles à tous. Autre énorme ombre au tableau climatique, le secteur aérien voit ses émissions de gaz à effet de serre en hausse, note le CITEPA, plus 21% pour les vols domestiques et plus 27% pour les vols internationaux. Ainsi, avec plus de 169 millions de passagers en 2023, le trafic aérien français a retrouvé son niveau de 2019 et le trafic mondial pourrait doubler d'ici 2040. C'est très inquiétant, remarque Pierre Leflève. Le secteur s'est engagé à la neutralité carbone d'ici 2050, mais ne donne absolument pas les moyens d'y parvenir. Il prône les carburants alternatifs et l'efficacité énergétique, mais ça ne suffira pas. D'autant plus que le gouvernement a pour le moment écarté l'idée de taxer le kérosène. Voilà, je fais aussi ce commentaire en disant que bien le transport international, même problème que du temps du protocole de Kyoto, pas de décompte et pas d'imputation nationale. Donc on se réjouit, on peut avoir un système dans lequel tous les pays seraient vertueux. Et comme on compte pas, puisqu'on n'arrive pas à les affecter, les émanations de gaz à effet de serre sur un trajet international, on pourrait avoir, ce qui est le cas d'ailleurs, des émissions de gaz à effet de serre qui au niveau mondial augmentent tout en ayant des pays qui ont une consommation nationale qui diminue. Autre aberration, je reprends la fin de l'article. Les améliorations restent à la marge parce qu'on n'a pas changé de paradigme, analyse Anne Lassmann-Trappier. On reste dans les petits gestes, donc on a des petits résultats. Tandis que Christophe Béchu voyait dans notre bilan carbone la preuve que la planification écologique, les mesures qui sont engagées commencent à produire des effets, les associations écologiques tirent la sonnette d'alarme. La planification ne reste qu'un mot, la mise en application tarde à venir, estime Pierre Leflève. Les 100 milliards pour le ferroviaire annoncés il y a un an, on ne sait toujours pas comment on va les financer. Idem sur les voitures électriques, le leasing social, c'est-à-dire bénéficier d'un véhicule sans en faire l'acquisition, engagé par le gouvernement ne suffit pas. Il faut un rapport de force avec les constructeurs afin de les pousser à créer de petits véhicules moins chers, poursuit le spécialiste. Selon Anne Lassmann-Trappier, on parle de décarbonation, mais on continue à subventionner les énergies fossiles. Dans les coupes budgétaires annoncées par Bercy, il y a des réductions des aides allouées aux collectivités pour la mobilité durable. Surtout pour les deux écologistes, il reste deux tabous, la place prédominante de la voiture et la réduction nécessaire du trafic aérien. Résultat, les pouvoirs publics continuent de promouvoir tous azimuts les aéroports et soutiennent des dizaines de projets routiers comme l'autoroute A69. Il faudrait faire moins de routes et plus de trains, mais pour le moment, on a davantage de routes et pas de nouveaux trains, résume Pierre Leflève. Et puis, pour conclure sur ce sujet, un article aussi un peu conséquent, mais qui m'a semblé important, tiré de la relève et la peste, d'associations qui appellent justement à un plafonnement des vols aériens pour le climat et la santé. Et rien que sur le titre, on peut s'arrêter en disant qu'effectivement, si on veut tous pouvoir vivre dans un climat raisonnable, ou en tout cas vivable, il faut pouvoir limiter considérablement, c'est la décroissance, n'ayons pas peur des mots, limiter considérablement ces voyages en avion. Et ce collectif d'associations, on va le voir, propose un plafonnement des vols aériens dans un contexte où on l'a vu en fin d'année 2023, le trafic aérien français a retrouvé son niveau de 2019 d'avant pandémie, selon la Direction Générale de l'Aviation Civile. S'il n'en finit pas d'augmenter, il pourrait même être amené à doubler d'ici à 2040, et face à ce constat qui menace le climat et la santé de milliers d'habitants, plusieurs associations ont décidé de se mobiliser partout en France pour demander un plafonnement du trafic aérien au ministère des Transports. Selon un des scénarios du rapport pour décarboner le transport de l'aérien de l'ADEME, il serait nécessaire de réduire de 15% le trafic aérien sur l'ensemble des aéroports français d'ici 2050 afin de parvenir à une baisse significative des émissions de gaz à effet de serre dues à l'aviation. Aujourd'hui, il nous faut l'assurance d'avoir moins de trafic aérien au-dessus de la tête, explique Chantal Bergmander, qui est présidente de l'Union française contre les nuisances des aéronefs, l'UFCNA. Aux côtés des jeunes générations et des nouveaux réseaux, nous voulons dire qu'on ne lâchera pas l'affaire. L'organisation, comme beaucoup d'autres, réclame un plafonnement effectif du trafic aérien de jour comme de nuit. Si aujourd'hui les impacts et les risques de l'aviation commerciale sur le climat et la santé des populations sont bien connus, les membres de l'UFCNA militent, eux, depuis plus de 40 ans et regrettent aujourd'hui de ne jamais avoir été entendus par les autorités gouvernementales. Pour espérer avoir gain de cause, les défenseurs de l'environnement misent alors sur l'étude d'impact selon l'approche équilibrée, donc EIAE. Cette procédure est actuellement la seule permettant d'obtenir le plafonnement du trafic dans les aéroports dans le cadre de directives européennes déclinées à l'échelle française. C'est d'ailleurs grâce à cette étude d'impact, donc EIAE, que le gouvernement des Pays-Bas a pris la décision de plafonner le trafic de l'aéroport d'Amsterdam de Schiphol, où les mouvements devraient désormais passer de 500 000 à 440 000 par an. Une résolution qui a cependant été suspendue en raison d'un avis négatif de la Commission européenne. En France, l'ancien ministre des Transports Clément Beaune avait également reçu une délégation en mai 2023 au sujet des études d'impact, donc selon l'approche équilibrée, EIAE, des aéroports franciliens. Il s'était alors engagé à étudier les scénarios de plafonnement lors des échanges avec la société civile et des élus mobilisés. Aujourd'hui, ces études sont en cours sous l'autorité des préfets et concernent la plupart des aéroports français les plus fréquentés, afin notamment d'élaborer des scénarios de réduction du bruit. Nous n'avons aucune assurance que les mesures de plafonnement du trafic aérien à la baisse que nous demandons soient retenues, déplore cependant Chantal Baird-Demander. Il est pourtant urgent qu'un plafonnement du trafic aérien soit mis en place au plus vite dans nos aéroports français et européens si l'objectif de limiter le réchauffement planétaire à 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle, réaffirmé par la COP28, veut être soutenable. Aujourd'hui, selon la Direction générale de l'aviation civile, le secteur aérien pèse environ 7% des émissions de CO2 en France, détaille Alexis Chaillou, responsable aviation au sein du réseau Action Climat, lors d'une conférence de presse. En effet, l'ADEME estime qu'en 2019, le transport aérien français est responsable de l'émission d'environ 24 millions de tonnes de CO2 équivalent, un chiffre contrastant fortement avec l'objectif fixé par le président de la République d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Par ailleurs, prendre l'avion n'est toujours réservé qu'à une petite partie de la population. On estime qu'environ 30% des Français n'ont jamais mis les pieds dans un avion. À l'échelle internationale, c'est encore plus marqué puisque 1% de la population mondiale est responsable de 50% des émissions de gaz à effet de serre, ajoute Alexis Chaillou. Une population qui reste plutôt urbaine, diplômée et financièrement aisée de catégorie socio-professionnelle supérieure. Outre ces impacts évidents sur l'environnement, le trafic aérien est aussi une grande source de nuisances pour la santé. Le bruit est l'un des facteurs majeurs d'atteinte à la santé. Il s'agit d'une urgence sanitaire mondiale puisque les pollutions sont devenues la première cause de mortalité au monde, devant le tabagisme, qu'il soit actif ou passif, et bien loin devant les zoonoses, le paludisme ou les maladies infectieuses, explique le docteur Pierre Souvet, qui est membre de l'association Santé Environnement France, lors d'une conférence de presse. Par ailleurs, l'Agence européenne de l'environnement associe de nombreux cas d'hypertension artérielle, de diabète, de risque d'infarctus, de tension artérielle ou encore d'accidents vasculaires cérébraux dus à un bruit excessif issu du trafic aérien ou routier. Alors pour tenter d'enrayer la situation, l'association Restez sur Terre et l'UFCNA prévoient une série de mobilisations partout en France donc qui ont commencé le 13 mars ainsi qu'un rendez-vous au ministère des Transports qui a eu lieu le 15 mars. Nous sommes face à trois menaces vitales, le bruit, les pollutions atmosphériques et les émissions de gaz à effet de serre. Trois menaces qui chacune devraient être traitées de toute urgence par les pouvoirs publics, résume Charlène Fleury, organisatrice du réseau Restez sur Terre. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe une solution unique à ces trois problèmes, le plafonnement du trafic aérien. La mauvaise, c'est que pour le moment, la réponse de la France n'est pas à la hauteur. Voilà la conclusion de certains article du site La Relève et La Peste, donc un article du 12 mars 2024. Et bien, nous allons nous accorder une pause bien méritée et nous nous retrouvons tout de suite après. Vous êtes à l'écoute de Radio Libertaire sur 89,4 MHz. From my maison.
l'âme pour l'âme sans piéton. Je me plie au poids des paresses, je me fie à mes pas perdus, qui vont toujours, toujours ailleurs. Âme pour l'âme sans piéton, a long way from my maison. Âme pour l'âme sans piéton. Âme pour l'âme sans piéton. Je suis seul dans la ville. Mais c'est encore de moi qu'il faut que je m'en aille. Mais je sauterai de ma vie comme d'un train en marche. Que j'aime pour l'âme sans piéton. A long way from my maison. Âme pour l'âme sans piéton. Âme pour l'âme sans piéton. Never a man like my Johnny, like the one they call Johnny Guitar.
Voilà, c'était Philippe Léotard qui interprétait Lonesome Piéton. Vous êtes à l'écoute de Radio Libertaire sur 89,4 MHz. Quelques informations dans les 20 petites minutes qui nous restent pour cette émission sur la page du nucléaire, avec un communiqué du réseau Sortir du nucléaire du 29 mars. À propos de la consultation de l'ASN sur la mise en service de l'EPR de Flamanville, intitulée « Simple formalité pour un raffio nucléaire qui prend l'eau » au point d'interrogation. En effet, mercredi de la semaine dernière, l'autorité de sûreté du nucléaire, l'ASN, a ouvert à la consultation du public son projet de décision d'autorisation de la mise en service de l'EPR de Flamanville. Le véritable démarrage du réacteur est loin d'être effectif. Le début de la réaction de fission, c'est-à-dire la divergence du réacteur, n'a pas encore de date. Mais l'ouverture de cette consultation est un pas de plus vers la possibilité d'une prochaine mise en service, c'est-à-dire du chargement du combustible dans la cuve du réacteur. Seulement, les documents mis à disposition par l'ASN mettent en évidence que des problèmes doivent encore être résolus avant celle-ci, sans que cela ne semble aucunement entraver la perspective de la mise à l'eau d'un raffio radioactif dont nous n'avons eu de cesse de pointer les défaillances, nous dit donc le réseau Sortir du nucléaire. Le 31 août 2023, nous saisissions le parquet de Paris pour dénoncer des irrégularités dans la fabrication via des sous-traitants de pièces destinées à l'industrie nucléaire. Après avoir longtemps laissé planer le suspense, l'ASN confirme enfin dans un courrier le 26 mars 2024 que certains matériels concernés sont destinés à l'EPR de Flamanville et demande donc des comptes à EDF, notamment d'analyser les conséquences potentielles pour la sûreté de ces irrégularités. Mais dans son rapport d'instruction fourni dans le cadre de la consultation publique, l'ASN ne semble toujours pas avoir reçu ses analyses. Elle ne les a en tout cas pas encore instruites. Elle n'a pas non plus en main les résultats d'essais que doit produire Framatome pour attester que les soupapes situées au cœur du réacteur et donc fondamentales pour la sûreté sont conformes aux normes de sûreté. Sortir du nucléaire, donc le réseau avait déjà alerté sur le sujet. En 2021, l'EPR de Taishan, construit en Chine, sur le même modèle que l'EPR de Flamanville, avait fait parler de lui à cause de fuites radioactives. Alors que EDF se tait sur les raisons de ce problème et l'éventualité qu'il se retrouve sur l'EPR français, le laboratoire indépendant de la CRIRAD en révèle l'origine. Le fond de la cuve des réacteurs EPR a été mal conçu. Les mouvements de l'eau dans laquelle sont immergées les gaines de combustible sont trop violents, ce qui les abîme et détruit du même coup la première barrière censée limiter la dispersion des produits radioactifs dans l'environnement. Dans son rapport d'instruction, l'ASN demande à EDF d'installer un nouveau dispositif pour le limiter. Mais EDF n'est tenu d'en fournir la conception ainsi que le calendrier d'installation que pour le 31 décembre 2026, soit bien après une éventuelle mise en service si on s'en tient aux récentes annonces gouvernementales. La date d'installation, elle, n'est pas précisée. L'ASN consulte donc le public sur un dossier encore incomplet et le RAFIO n'a pas encore fait la preuve d'être capable de naviguer en toute sécurité. Oui, on voit qu'effectivement c'est plus qu'inquiétant et surtout qu'on confond vitesse et précipitation du côté du gouvernement pour tenir des objectifs sans se donner tous les moyens de s'assurer que les réponses ont été apportées. Je reprends la lecture du communiqué. Ça fait 12 ans qu'on l'attend, j'allais dire, on n'est pas à deux semaines près. C'est ainsi que Roland Lescure, ministre délégué chargé de l'industrie, balaie d'un revers de main le nouveau retard pour la mise en service de l'EPR de Flamanville. L'autorité de sûreté du nucléaire a en effet annoncé que le chargement de combustible est repoussé à la mi-avril au lieu du 31 mars. Donc ça devait être hier, hein, comme initialement prévu. C'est ce que confirment les dates de consultation du public sur son projet de décision d'autorisation qui se tient du 27 mars au 17 avril 2024. Ça implique donc que le délai maximal pour réaliser un premier chargement en combustible nucléaire, fixé au 10 avril 2024 par le décret d'autorisation de création du 10 avril 2007, ne sera pas respecté. Que se passe-t-il alors si ce décret n'est pas respecté ? Rien, et c'est tout le problème. Le code de l'environnement prévoit bien que si ce délai n'est pas respecté, il peut être mis fin à l'autorisation de l'installation. Si cela était le cas, l'exploitant devrait reprendre toute la procédure pour obtenir le décret d'autorisation de création. Fournir une nouvelle étude d'impact, une étude de maîtrise de risque, faire la preuve de ses capacités techniques et financières. Cette date limite a en effet une véritable utilité, n'en déplaise à ceux qui n'en tiennent pas compte. Celle de servir de garde-fou pour éviter que ne soient mis en service des projets qui n'auraient plus grand-chose à voir avec le projet initial. Les dernières fois où l'EPR avait accusé un retard, le décret d'autorisation de création avait par ailleurs été au moins été modifié suite à une demande d'EDF et une autorisation de l'ASN. Mais cette fois-ci, les attestations fournies par le pilote EDF il y a parfois de nombreuses années suffisent. L'ASN envisage d'autoriser la mise à flot d'un RAFIO qui prend l'eau alors même que certaines de ses pièces radioactives devront être bientôt changées. Il est connu depuis 2015 que le couvercle de la cuve de l'EPR de Flamanville présente une anomalie dans sa composition qui ne lui permet pas de remplir les caractéristiques de sûreté initialement exigées. En 2017, l'autorité de sûreté nucléaire autorise pourtant son utilisation, mais sous couvert qu'il soit changé avant le 31 décembre 2024. Le 16 mai 2023, nouveau coup de théâtre. Face à l'accumulation de retard de l'EPR, l'ASN autorise l'utilisation du couvercle jusqu'au premier arrêt pour rechargement du réacteur, soit entre 15 et 18 mois après avoir commencé à fonctionner. Mais l'autorité considère que dans le cas où le projet subirait à nouveau un retard important, l'exploitant devra réexaminer la possibilité de remplacer le couvercle avant la mise en service du réacteur. Il est prévu que le couvercle soit livré en octobre 2024. Il serait donc légitime de penser que, puisque le chantier n'en est pas à deux semaines près, l'EPR puisse attendre l'installation de cette pièce avant toute opération de divergence et donc d'irradiation de tout le circuit primaire. Mais l'ASN assume au contraire de créer un nouveau déchet radioactif alors même qu'aujourd'hui rien n'est prévu pour le traiter. Il sera donc stocké sur place, mais qu'on se rassure, dans un bâtiment dédié répondant aux exigences de radioprotection. Certaines pièces du raffio de Flamanville se transformeront donc bientôt en épaves radioactives dont les générations futures assumeront la charge pendant de nombreuses décennies. Encore une fois, l'industrie nucléaire avance avec le vent en poupe au détriment de la sûreté et des citoyens. Encore une fois, l'ASN, loin d'être une autorité et encore moins de sûreté, ne contrôle pas cette industrie moribonde et irresponsable. Pendant ce temps, le gouvernement, véritable capitaine à la manœuvre, hisse les voiles, raz-de-marée radioactif à l'horizon. Voilà la conclusion de cet article effectivement inquiétant quant à la précipitation de la mise en service de l'EPR de Flamanville avec les nombreux problèmes qui ont été énoncés dans cet article. Voilà. Alors, avec le canard enchaîné aussi de cette semaine et la chronique plouf, cette fois-ci, de Jean-Luc Porquet, on peut aborder un autre aspect du problème sur le petit nucléaire qui rassure. En effet, nous dit Jean-Luc Porquet, c'est la tarte à la crème, les mini-réacteurs nucléaires. Demain, la France en sera couverte, il y en aura des centaines. Ça va être super, des tas de start-up sont sur le coup, très doués par la com, mieux, le bluff. Promis, on va y aller très vite. Il y a plein de sous à se faire. Macron a promis 1 milliard d'euros de subventions sur la table. Le fameux plan France 2030. Il veut accélérer le nucléaire. Alors, Jimmy a déjà reçu 32 millions. Jimmy, c'est une start-up créée voilà 4 ans par deux amis, un ancien de Polytechnique et une diplômée de HEC. Jimmy promet de mettre en service le premier mini-réacteur nucléaire français d'ici la fin de l'année 2026. Un magnifique réacteur de 20 mètres cubes qui fournira 20 mégawatts thermiques. Jimmy dit avoir embauché 70 spécialistes et promet de passer à la production en série avec 300 emplois dans une usine de générateurs qui devrait sortir de terre en 2028 au Creusot, selon un article des Échos du 15 février. Mais il y a des petits problèmes. Seuls 4 SMR, Small Modular Reactor, 2 en Chine et 2 en Russie, fonctionnent dans le monde. Une centaine de projets sont en route, aucun n'avançant comme sur des roulettes. EDF, qui s'est mis sur les rangs avec sa filiale New World, compte faire tourner son premier prototype d'ici à 11 ans. Selon le rapport de Global Chance, les SMR, deux exemples, NuScale et NuWorld, paru en novembre 2023. On mesure combien c'est loin d'être au point. Or, le but affiché est de décarboner l'industrie le plus vite possible. Et justement, pour décarboner, donc approvisionner les usines en chaleur et en électricité grâce au nucléaire, il faudra installer les mini-réacteurs à proximité, dans les zones industrielles ou juste à côté, là où tiens, comme c'est bizarre, des gens ont leur pavillon ou leur jardin. Certes, les Français ont oublié Fukushima et d'après les sondages, 46% font aujourd'hui confiance au nucléaire, un record jamais atteint, selon le site justement de l'autorité de sûreté du nucléaire. Mais que se passera-t-il quand les mini-réacteurs débarqueront aux portes des agglomérations ? Les riverains applaudiront-ils des deux mains ? Se réjouiront-ils d'habiter à deux pas d'un truc certes tout nouveau, tout beau, mais hautement radioactif et dangereux, et fort attractif pour les terroristes de passage ? C'est seulement maintenant que les amis du nucléaire y pensent. Bernard Dorosjuk, le président de l'ASN, le gendarme du nucléaire, a ainsi évoqué le 30 janvier ce sujet majeur d'acceptabilité. Il faut, a-t-il dit, le traiter avec beaucoup d'attention, car il existe un risque, celui que ces projets rencontrent des oppositions. Depuis, fleurissent les articles évoquant le défi que constitue cette acceptabilité. À quand de belles campagnes de propagande destinées à nous convaincre que vivre à côté d'un mini-réacteur nucléaire, c'est aimer la planète, se montrer éco-responsable. On attend avec impatience, conclut malicieusement Jean-Luc Porquet. Voilà pour cette page sur le nucléaire. Et puis, puisqu'il nous reste quelques minutes, je voulais en profiter pour évoquer quelques sujets en lien avec le climat et cet article intéressant dans Novetic, publié le 25 mars sur les déplacés climatiques en France. Les prochains migrants, c'est nous. En effet, la France est le pays d'Europe qui a connu le plus de déplacés climatiques en 2022 en raison des feux historiques qui ont frappé le sud-ouest. Mais l'avenir s'annonce tout aussi sombre avec les importantes inondations qui ont frappé le 4 Pas-de-Calais en fin d'année dernière et la sécheresse extrême qui touche actuellement les Pyrénées-Orientales. Face à cela, l'adaptation devient un levier incontournable. C'est un chiffre qui a de quoi surprendre et qui nous place brutalement face à la réalité du changement climatique. La France a comptabilisé 45 000 déplacés climatiques en 2022. Année la plus chaude jamais enregistrée dans le pays, selon un rapport de l'Internal Displacement Monitoring Center relayé par l'ONG Oxfam. C'est 5 fois plus que l'année précédente. En cause, les feux de forêt à la Teste de Buch dans le département de la Gironde, qualifié d'incendie du siècle, qui avait entraîné l'évacuation et le déplacement de 38 000 personnes. Les 7 000 déplacés restants l'ont été à la suite de feux en Méditerranée et d'inondations. La France est particulièrement exposée aux aléas climatiques, érosion des côtes, inondations, sécheresses, incendies. En 2022, le pays arrive au premier rang des pays ayant connu le plus de déplacés climatiques pour la région Europe-Asie, juste devant l'Espagne, explique auprès de Novetic Quentin Guesquière, qui est chargé de campagne et de plaidoyer au pôle climat d'Oxfam France. La notion de déplacé climatique englobe ici toutes les personnes ayant dû quitter leur domicile temporairement ou définitivement en raison d'un événement climatique extrême. Mais les données ne prennent en revanche pas en compte les déplacements lents qui ne sont pas liés à un événement extrême violent et rapide lié au changement climatique, mais par exemple à l'élévation du niveau de la mer, à la fonte des glaciers qui fragilise les économies de la montagne, au manque d'eau sur certains territoires ou à la hausse des températures. Au total, on estime que plus de 60% de la population française est exposée de manière forte ou très forte au risque climatique. Après la tempête Xynthia qui a frappé la Vendée et la Charente-Maritime en 2010, des centaines de maisons ont ainsi été déconstruites, provoquant l'expropriation forcée de leurs habitants. Plus récemment, dans les Alpes-Maritimes, après le passage de la tempête Alex, un immeuble de 26 logements a lui aussi été déclaré inhabitable à Saint-Martin-Vésubie et des dizaines d'habitations ont été rachetées par les collectivités pour être détruites. Plus au sud, sur la côte, la commune de Mandelieu-de-la-Napoule a elle aussi racheté des villas situées en zone rouge inondable, toutes sinistrées en 2015 puis en 2019. Dans le Pas-de-Calais, après des inondations historiques qui ont touché le département à quelques mois d'intervalle, de nombreux habitants se posent la question de rester ou fuir et l'État envisage d'y rendre certaines zones régulièrement inhabitables. Mais jusqu'où peut-on continuer comme ça ? Racheter des logements et reloger des habitants coûte extrêmement cher. Ça pose aussi des questions d'acceptabilité pour ces populations, pointe Quentin Guesquière. L'urgence doit être de mettre en place des vraies solutions d'adaptation. Or, jusqu'ici, le sujet a toujours été sous-dimensionné. Le nouveau plan d'adaptation nationale au changement climatique, le PNAC 3, doit être présenté d'ici l'été et le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, semble avoir pris le sujet à bras le corps. Son premier crash test aura lieu dans les Pyrénées-Orientales. Le département connaît une sécheresse extrême après 2 années sans pluie et des communes qui sont d'ores et déjà privées d'eau potable. Une première en plein hiver. Les prochains migrants, c'est nous tout simplement si on nous abandonne, a lancé la présidente de la Chambre d'agriculture des Pyrénées-Orientales, Fabienne Bonnet, lors d'une session de la Chambre d'agriculture d'Occitanie à Toulouse. Des pays bien plus au sud que nous vivent, produisent et on importe leurs produits. Il faut qu'on débloque les choses, insiste-t-elle. En déplacement sur place le 21 mars, le ministre Christophe Béchu a annoncé un plan de résilience pour le département qui sera présenté à la mi-avril et le financement de projets d'aménagement face à la sécheresse et notamment une étude sur la prolongation d'un aqueduc acheminant l'eau du Rhône vers l'Occitanie. Il en a également profité pour dénoncer l'anachronisme d'un projet immobilier comprenant un golf controversé à Villeneuve-de-la-Raho, près de Perpignan, un premier pas d'un long chemin. Donc, à signaler que cet article de Novetic est le premier épisode d'une série consacrée aux déplacés climatiques et avec un prochain à paraître consacré au déménagement du village de Miquelon de l'autre côté de l'Atlantique, victime de l'érosion marine et de la montée du niveau de la mer. Voilà pour ce qui concerne cette page sur le climat. On arrive à la fin de l'émission. On va se quitter très bientôt. Ce qu'on peut rappeler, c'est que il faut ne pas hésiter à acheter la presse libre qui ne se vend pas à la publicité. On en a cité quelques-unes. Il y a souvent dans cette émission, on parle du mensuel La Décroissance, on parle du mensuel aussi L'Âge de Fer, et il y en a beaucoup d'autres. en tout cas une presse qui porte des alternatives et une analyse critique, une approche politique de la décroissance. Voilà, ce qui est toujours fondamental à défendre. Vous pouvez aussi défendre évidemment Radio Libertaire, votre radio, bien en souscrivant via principalement Internet. Donc il y a un bon de souscription mensuel qui nous aide à financer le fonctionnement de la radio. Vous pouvez aller aussi au siège de Radio Libertaire au 145 rue Amelot dans le 11e arrondissement de Paris. Et là, on vous expliquera, si vous souhaitez être actif pour soutenir la radio, les différentes modalités. Voilà, on va se quitter tout de suite. On se retrouve, si mon calcul est bon, le 6 mai. D'ici là, restez à l'écoute de la plus rebelle des radios, Radio Libertaire, sur 89,4 MHz.
Ich haben musste gar nicht erst nachfragen. Ich fress Tabletten und überhaupt, Mann. Ich schaff mir keine kleinen Kinder an. Nein, nein, nein. Warum soll ich meine Pflicht als Frau erfüllen? Für wen? Für die? Für dich? Für mich? Ich hab keine Lust, meine Pflicht zu erfüllen. Für dich nicht, für mich nicht. Ich hab keine Pflicht. Jetzt ist es Zeit, endlich mal aufzumotzen. Ich fress Tabletten und überatme. Ich schaff mir keine kleinen Kinder an. Nein, 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 warum soll ich meine Pflicht als Frau erfüllen? Für wen? Für dich? Für dich? Für mich? Ich hab keine Lust, meine Pflicht zu erfüllen. Für dich nicht, für mich nicht. Ich hab keine Pflicht. Marlene hat den andere Pläne.
Faire le coup à Guangzhou, du séducteur en Équateur, elles sont mortelles à La Rochelle. Seychelles, elles sont canon 15 sur un lion, elles ont du pont à Mexico, et elles ont du vice à Tunis, elles ont des airs à Buenos Aires, de princesse d'ex-URSS, elles vont et s'en reviennent à Vienne, pour t'enlacer tout près d'Alger, mais elles jamais, au grand jamais, je n'en ai vu de plus mûre que celle-là, un soir de mai, dans cette rue de Saumur. Elle nous amène tout près la tête par les chemins de Dublin, nous faire envie à Varsovie, nous faire la cour à Singapour. Il y a des vacances, c'est à Pékin, et il y a des soirs, c'est à Dakar. Une journée de rêve à Genève, un mois magique comme à Jardy. Quand elles assurent, c'est à Namur, qu'elles sont TikTok, c'est à Saint-Trope. Qu'elles ont du chien, c'est au camp, ou qu'elles sont chiennes, c'est à Cayenne. Elles ont des balles à Bagdad, hallucinantes au port de Nantes. Ça porte des chances au port de France, ça vaut de l'or à Salvador. Elles sont pulpeuses, c'est dans la Creuse. Elles sont fritées à Yaoundé, du caramel dans les Seychelles, ou bien goût vanille à Séville, tout juste à verre si c'est au clair. Bien comme il faut à Santiago, un peu sucré à San José. Du chocolat, c'est un Lima presque parfait à Nazareth. Pas déçu à Honolulu, t'en seras fier dans le Cap-Vert. Et toujours content à Oran de les avoir à Zanzibar. Tout près de toi, Panama, entre la vie belle à Bruxelles et le destin bon à Tokyo. C'est un délice au cœur de Nice, c'est du bonheur derrière aux fleurs, c'est du plaisir à Agadir, c'est de la joie à Bogota quand elle sort de grands jeux à deux, qu'elle sera juste à Ramona quand elle déchire tout à Wenzhou ou qu'elle cartonne à Washington. Mais jamais, au grand jamais, je n'en ai vu de plus mûre que celle-là, un soir de mai, dans cette rue de Namur. Des mots dans mon hameau, et ma foi gentille dans ma ville, des têtes à plat dans mon barrage, et des petites là où j'habite.